Pierre Loti, Madame Chrysanthème. Avant-propos. En mer, aux environs de 2 heures du matin, par une nuit calme, sous un ciel plein d'étoiles. Yves se tenait sur la passerelle auprès de moi, et nous causions du pays, absolument nouveau pour nous deux, où nous conduisaient cette fois les hasards de notre destinée. C'était le lendemain que nous devions atterrir. Cette attente nous amusait et nous formions 1000 projets. Moi, disais-je, aussitôt arrivé, je me marie. Ah, fit Yves de son air détaché, en homme que rien ne surprend plus. Oui, avec une petite femme à peau jaune, à cheveux noirs, à yeux de chat. Je la choisirai jolie. Elle ne sera pas plus haute qu'une poupée. Ah, tu auras ta chambre chez nous. Ça se passera dans une maison de papier, bien à l'ombre, au milieu des jardins verts. Je veux que tout soit fleuri alentour. Nous habiterons au milieu des fleurs, et chaque matin, on remplira notre logis de bouquets. Oh, de bouquets comme jamais tu n'en as vu. Yves semblait maintenant prendre intérêt à ses projets de ménage. Il m'eût d'ailleurs écouté avec autant de confiance si je lui avais manifesté l'intention de prononcer des vœux temporaires chez les moines de ce pays, ou bien d'épouser quelque reine des îles et de m'enfermer avec elle au milieu d'un lac enchanté dans une maison de jade. Mais c'était réellement bien arrêté dans ma tête ce plan d'existence que je lui exposais là. Par ennui, mon Dieu, par solitude, j'en étais venu peu à peu à imaginer, à désirer ce mariage. Et puis surtout, vivre un peu à terre, en un coin ombreux parmi les arbres et les fleurs, comme cela était tentant après ces mois de notre existence que nous venions de perdre aux pescadors, qui sont des îles chaudes et sinistres, sans verdure, sans bois, sans ruisseaux, ayant l'honneur de la Chine et de la mort. Nous avions fait beaucoup de chemin en latitude depuis que notre navire était sorti de cette tournée chinoise et les constellations de notre ciel avaient rapidement changé. La Croix du Sud est disparue avec les autres étoiles australes, la Grande Ourse était remontée vers le zénith et se tenait maintenant presque aussi haut que dans le ciel de France. Déjà, l'air plus frais qu'on respirait cette nuit-là nous reposait, nous vivifiait délicieusement, nous rappelait nos nuits de quart autrefois l'été sur les côtes bretonnes. Et pourtant, à quelle distance nous en étions de ces côtes familières, à quelle distance effroyable! Au petit jour naissant, nous aperçûmes le Japon. Juste à l'heure prévue, il apparut encore lointain, en un point précis de cette mer qui pendant tant de jours avait été l'étendue vide. Ce ne fut d'abord qu'une série de petits sommets roses. L'archipel avançait des Fukaiyo au soleil levant. Mais derrière, tout le long de l'horizon, on vit bientôt comme une lourdeur en l'air, comme un voile pesant sur les eaux. C'était cela le vrai Japon, et peu à peu, dans cette sorte de grande nuée confuse, se découpèrent des silhouettes tout à fait opaques qui étaient les montagnes de Nagasaki. Nous avions vent debout, une brise fraîche qui augmentait toujours, comme si ce pays eût soufflé de toutes ses forces contre nous pour nous éloigner de lui. La mer, les cordages, le navire était agité et bruissant. Vers 3 heures du soir, toutes ces choses lointaines s'étaient rapprochées jusqu'à nous surplomber de leurs masses rocheuses ou de leurs fouillis de verdure. Et nous entrions maintenant dans une espèce de couloir ombreux entre deux rangées de très hautes montagnes qui se succédaient avec une bizarrerie symétrique comme les portants d'un décor tout en profondeur, extrêmement beau, mais pas assez naturel. On eût dit que ce Japon s'ouvrait devant nous, en une déchirure enchantée pour nous laisser pénétrer dans son cœur même. Au bout de cette baie longue et étrange, il devait y avoir Nagasaki, qu'on ne voyait pas encore. Tout était admirablement vert. La grande brise du large, brusquement tombée, avait fait place au calme. L'air, devenu très chaud, se remplissait de parfums de fleurs. Et dans cette vallée, il se faisait une étonnante musique de cigales. Elles se répondaient d'une rive à l'autre. Toutes ces montagnes résonnaient de leurs bruissements innombrables. Tout ce pays rendait comme une incessante vibration de cristal. Nous frôlions au passage des peuplades de grandes jonques qui glissaient tout doucement, poussées par des brises imperceptibles. Sur l'eau à peine froissée, on ne les entendait pas marcher. Leurs voiles blanches, tendues sur des vergues horizontales, retombaient mollement, drapées à mille plis comme des stores. Leurs poupes compliquées se relevaient en châteaux comme celles des nefs du Moyen-Âge. Au milieu du vert intense de ces murailles de montagne, elles avaient une blancheur neigeuse. Quel pays de verdure et d'ombre, ce Japon! Quel Éden inattendu! Dehors, en pleine mer, il devait faire encore grand jour. Mais ici, dans l'encaissement de cette vallée, on avait déjà une impression de soir. Au-dessous des sommets très éclairés, les bases, toutes les parties plus touffues, avoisinant les eaux, étaient dans une pénombre de crépuscule. Ces jonques, qui passaient si blanches sur le fond sombre des feuillages, étaient manœuvrées sans bruit, merveilleusement, par de petits hommes jaunes, tout nus, avec de longs cheveux peignés en bandeaux de femme. À mesure qu'on s'enfonçait dans le couloir vert, les senteurs devenaient plus pénétrantes et le tintement monotone des cigales s'enflait comme un crescendo d'orchestre. En haut, dans la découpure lumineuse du ciel entre les montagnes, planaient des espèces de gerfaux qui faisaient « houm, houm, houm » avec un son profond de voix humaine. Leur cri détonnait, là, tristement, prolongé par l'écho. Toute cette nature exubérante et fraîche portait en elle-même une étrangeté japonaise. Cela résidait dans je ne sais quoi de bizarre qu'avaient les cimes des montagnes et, si l'on peut dire, dans l'invraisemblance de certaines choses trop jolies. Des arbres s'arrangeaient en bouquets avec la même grâce précieuse que sur les plateaux de lacs. De grands rochers surgissaient tout debout, dans des poses exagérées, à côté de mamelons, formes douces, couverts de pelouses tendres. Des éléments disparates de paysages se trouvaient rapprochés, comme dans les sites artificiels. Et en regardant bien, on apercevait, çà et là, le plus souvent bâti en porte-à-faux au-dessus d'un abîme, quelques vieilles petites pagodes mystérieuses, à demi cachées dans le fouillis des arbres suspendus. Cela, surtout, jeta dès l'abord aux nouveaux arrivants comme nous la note lointaine et donnait le sentiment que, dans cette contrée, les esprits, les dieux des bois, les symboles antiques chargés de veiller sur les campagnes étaient inconnus et incompréhensibles. Quand Nagasaki parut, ce fut une déception pour nos yeux. Au pied des vertes montagnes surplombantes, c'était une ville tout à fait quelconque. En avant, un pêle-mêle de navires portant tous les pavillons du monde, des paquebots comme ailleurs, des fumées noires et sur les quais des usines. En fait, de choses banales déjà vues partout, rien n'y manquait. Il viendra un temps où la terre sera bien ennuyeuse à habiter, quand on l'aura rendue pareille d'un bout à l'autre et qu'on ne pourra même plus essayer de voyager pour se distraire un peu. Nous fîmes vers 6 heures un mouillage très bruyant au milieu d'un tas de navires qui étaient là et tout aussitôt nous fûmes envahis. Envahis par un Japon mercantile, empressés, comiques, qui nous arrivaient à pleine barque, à pleine jonque, comme une marée montante. Des bons hommes et des bonnes femmes entrant en longue file ininterrompue, sans cris, sans contestation, sans bruit, chacun avec une révérence si souriante qu'on n'osait pas se fâcher, et qu'à la fin, par effet réflexe, on souriait soi-même, on saluait aussi. Sur leur dos, ils apportaient tous des petits paniers, des petites caisses, des récipients de toutes les formes, inventés de la manière la plus ingénieuse pour s'emboîter, pour se contenir les uns les autres, et puis se multiplier ensuite jusqu'à l'encombrement, jusqu'à l'infini. Il en sortait des choses inattendues, inimaginables, des paravents, des souliers, du savon, des lanternes, des boutons de manchette, des cigales en vie chantant dans des petites cages, de la bijouterie et des souris blanches apprivoisées, sachant faire tourner des petits moulins en carton, des photographies obscènes, des soupes et des ragoûts dans des écuelles tout chauds, tout prêts à être servis par portions à l'équipage, et des porcelaines, des légions de potiches, de théières, de tasses, de petits pots et d'assiettes. En un tour de main, tout cela déballé, étalé par terre avec une prestesse prodigieuse et un certain art d'arrangement. Chaque vendeur accroupi à la singe, les mains touchant les pieds derrière son bibelot, et toujours souriant, toujours cassé en deux par les plus gracieuses révérences. Et le pont du navire, sous ses amas de choses multicolores, ressemblant tout à coup à un immense bazar. Et les matelots, très amusés, très en gaieté, piétinant dans les tas, prenant le menton des marchandes, achetant de tout, semant à plaisir leurs piastres blanches. Mais mon Dieu, que tout ce monde était laid, mesquin, grotesque. Étant donné mes projets de mariage, j'en devenais très rêveur, très désenchanté. Nous étions de service, Yves et moi, jusqu'au lendemain matin, et après les premières agitations qui, à bord, suivent toujours les mouillages, embarcations à mettre à la mer, échelles, tangons à pousser dehors, nous n'avions plus rien à faire qu'à regarder. Et nous nous disions, « Où sommes-nous vraiment? Aux États-Unis? Dans une colonie anglaise d'Australie ou à la Nouvelle-Zélande ?» Des consulats, des douanes, des manufactures, un dock ou trône d'une frégate russe, toute une concession européenne avec des villas sur les hauteurs et sur les quais, des bars américains, l'usage des matelots. Là-bas, il est vrai, là-bas, derrière et plus loin que ces choses communes, tout au fond de l'immense vallée verte, des milliers et des milliers de maisonnettes noirâtres, enfouillis d'un aspect un peu étrange, d'où émergent çà et là de plus hautes toitures peintes en rouge sombre. Probablement le vrai, le vieux Nagasaki japonais qui subsiste encore. Et dans ces quartiers, qui sait, minaudant derrière quelques paravents de papier, la petite femme à yeux de chat, que peut-être avant 2 ou 3 jours, n'ayant pas de temps à perdre, j'aurais épousé. C'est égal, je ne la vois plus bien, cette petite personne. Les marchandes de souris blanches qui sont ici m'ont gâté son image. J'ai peur à présent qu'elle ne leur ressemble. À la nuit tombante, le pont de notre navire se vida comme par enchantement. Ayant en un tour de main refermé leurs boîtes, replié leurs paravents à coulisses, leurs éventails à ressort, ayant fait à chacun de nous la révérence très humble, les petits bons hommes et les petites bonnes femmes s'en allèrent. Et à mesure que la nuit descendait, confondant les choses dans de l'obscurité bleuâtre, ce Japon où nous étions redevenait peu à peu, un pays d'enchantement et de féerie. Les grandes montagnes, toutes noires à présent, se dédoublaient par la base dans l'eau immobile qui nous portait, se reflétaient avec leurs découpures renversées, donnant l'illusion de précipices effroyables au-dessus desquels nous aurions été suspendus, et les étoiles, renversées aussi, faisaient dans le fond du gouffre imaginaire comme un semis de petites taches de phosphore. Puis tout ce Nagasaki s'illuminait à profusion, se couvrait de lanternes à l'infini. Le moindre faubourg s'éclairait, le moindre village. La plus infime cabane, qui était juchée là-haut dans les arbres, et que, dans le jour, on n'avait même pas vue, jetait sa petite lueur de verre luisant. Bientôt, il y en eut des lumières, il y en eut partout. De tous les côtés de la baie, du haut en bas des montagnes, des myriades de feux brillaient dans le noir, donnant l'impression d'une capitale immense, étagée autour de nous en un vertigineux amphithéâtre. Et en dessous, tant l'eau était tranquille, une autre ville aussi illuminée descendait au fond de l'abîme. La nuit était tiède, pure, délicieuse. L'air rempli d'une odeur de fleurs que les montagnes nous envoyaient. Des sons de guitare venant des maisons de thé ou des mauvais lieux nocturnes semblaient dans l'éloignement être des musiques suaves. Et ce chant des cigales, qui est au Japon un des bruits éternels de la vie auquel nous ne devions plus prendre garde quelques jours plus tard, tant il est ici le fond même de tous les bruits terrestres, on l'entendait, sonore, incessant, doucement monotone, comme la chute d'une cascade de cristal. Il pleuvait par torrents le lendemain, une de ces pluies d'abat, sans trêve, sans merci, aveuglante, inondant tout, une pluie drue à ne pas se voir d'un bout de navire à l'autre. On eût dit que les nuages du monde entier s'étaient réunis dans la baie de Nagasaki, avaient pris rendez-vous dans ce grand entonnoir de verdure pour y ruisseler à leur aise. Et il pleuvait, il faisait presque nuit tant cela tombait épais. À travers un voile d'eau émietté, on apercevait encore la base des montagnes, mais quant aux cimes, elles étaient perdues dans les grosses masses sombres qui pesaient sur nous. On voyait des lambeaux de nuages qui avaient l'air de se détacher de la voûte obscure, qui traînaient là-haut sur les arbres comme de grandes loques grises, et qui toujours fondaient en eau torrentielle. Il y avait du vent aussi, on entendait hurler dans les ravins avec une voix profonde. Et toute la surface de la baie, piquée de pluie, tourmentée par les tourbillons qui arrivaient de partout, clapotait, gémissait, se démenait dans une agitation extrême. Un vilain temps pour mettre pied à terre une première fois. Comment aller chercher épouse sous ce déluge dans un pays inconnu? Tant pis, je fais toilette et je dis à Yves, qui sourit à mon idée de promenade quand même, « Allez, fais-moi accoster un sampan, frère, je te prie. » Yves, alors, d'un geste de bras dans le vent et la pluie, appelle une espèce de petit sarcophage en bois blanc qui sautillait près de nous sur la mer, mené à la godille par deux enfants jaunes tout nus sous l'averse. La chose approche, je m'élance dessus, puis par une petite trappe en forme de ratière que m'ouvre l'un des godilleurs, je me glisse et m'étends tout de mon long sur une natte dans ce que l'on appelle la cabine d'un sampan. J'ai juste la place de mon corps couché dans ce cercueil flottant, qui est d'ailleurs d'une propreté minutieuse et d'une blancheur de sapin neuf. Je suis bien abrité de la pluie qui tambourine sur mon couvercle, et me voilà en route pour la ville, naviguant à plat ventre dans cette boîte. Bercé par une lame, secoué méchamment par une autre, à moitié retourné quelquefois et, dans l'entrebâillement de ma ratière, apercevant de bas en haut les deux petits personnages à qui j'ai confié mon sort. Enfants de 8 ou 10 ans, tout au plus, ayant des minois de ouistiti, mais déjà musclés comme de vrais hommes en miniature, déjà adroits comme de vieux habitués de la mer. Ils poussent les hauts cris, c'est que sans doute nous abordons. En effet, par ma trappe que je viens d'ouvrir en grand, je vois les dalles grises du quai, là, tout près. Alors, j'émerge de mon sarcophage, me disputant à mettre le pied pour la première fois de ma vie sur le sol japonais. Tout ruisselle de plus en plus et la pluie fouette dans les yeux, irritante, insupportable. À peine suis-je à terre qu'une dizaine d'êtres étranges, difficiles à définir dès l'abord à travers l'ondée aveuglante, espèces de hérissons humains, traînant chacun quelque chose de grand et de noir, bondissent sur moi, crient, m'entourent, me barrent le passage. L'un d'eux a ouvert sur ma tête un immense parapluie à nervures très rapprochées, sur lequel des cigognes sont peintes en transparent, et les voici qui me sourient tous, la figure engageante avec un air d'attendre. On m'avait prévenu, ce sont simplement des djinns qui se disputent l'honneur de ma préférence. Seulement, je suis saisi de cette attaque brusque, de cet accueil du Japon pour une première visite. Des djinns ou des djinns rishians, cela veut dire des hommes coureurs traînant de petits chars et voiturant les particuliers pour de l'argent, se louant à l'heure ou à la course, comme chez nous, les fiacres. Leurs jambes sont nues jusqu'en haut, aujourd'hui très mouillées, et leur tête se cache sous un grand chapeau de forme abat-jour. Ils portent un manteau waterproof en paillasson, tous les bouts de paille en dehors hérissés à la port reptique. On les dirait habillés avec le toit d'une chaumière. Ils continuent de sourire, attendant mon choix. N'ayant l'honneur d'en connaître aucun, j'opte à la légère pour le djinn au parapluie et je monte dans sa petite voiture dont il rabat sur moi la capote bien bas, bien bas. Sur mes jambes, il étend un tablier ciré, me le remonte jusqu'aux yeux, puis s'avance et me dit en japonais quelque chose qui doit signifier ceci « Où faut-il vous conduire, mon bourgeois ?» À quoi je réponds dans la même langue « Au jardin des fleurs, mon ami. » J'ai répondu cela en trois mots appris par cœur, un peu à la manière perroquet, étonné que cela pût avoir un sens, et étonné d'être compris. Et nous partons, lui courant ventre à terre, moi traîné par lui, tressautant sur la route dans son char léger, enveloppé de toile cirée, enfermé comme dans une boîte. Toujours arrosés tous deux, faisant jaillir l'eau et la boue du sol détrempé. Au jardin des fleurs, ai-je dit, comme à l'habitué, surpris moi-même de m'entendre. C'est que je suis moins naïf en japonnerie qu'on ne pourrait le croire. Des amis qui reviennent de cet empire m'ont fait la leçon, et je sais beaucoup de choses. Ce jardin des fleurs est une maison de thé, un lieu de rendez-vous élégant. Une fois là, je demanderai à un certain Kangourou-san, qui est à la fois interprète, blanchisseur et agent discret pour croisement de race. Et ce soir, peut-être, si mes affaires marchent à souhait, je serai présenté à la jeune fille que le sort mystérieux me destine. Cette pensée me tient l'esprit en éveil pendant la course haletante que nous faisons, mon djinn et moi, l'un roulant, l'autre sous l'averse inexorable. Oh, le singulier Japon entrevu ce jour-là, par l'entrebâillement de ses toiles cirées, par-dessous la capote ruisselante de ma petite voiture. Un Japon maussade, crotté, à demi-noyé. Tout cela, maisons, bêtes ou gens que je ne connaissais encore qu'en images, tout cela que j'avais vu peint sur les fonds bien bleus ou bien roses des écrans et des potiches, m'apparaissant dans la réalité sous un ciel noir, en parapluie, en sabots, piteux et troussé. Par instant, l'onde tombe si fort que je ferme tout bien juste. Je m'engourdis dans le bruit et les secousses, oubliant tout à fait dans quel pays je suis. Cette capote de voiture a des trous qui me font couler des petits ruisseaux dans le dos. Ensuite, me rappelant que je voyage en plein Nagasaki et pour la première fois de ma vie, Je jette un regard curieux dehors, au risque de recevoir une douche. Nous trottons dans quelques petites rues tristes et noirâtres. Il y en a comme ça un dédale, des milliers. Des cascades et des gringoles des toits sur les pavés luisants. La pluie fait dans l'air des hachures grises qui embrouillent les choses. Parfois, nous croisons une dame empêtrée dans sa robe, mal assurée sur ses hautes chaussures de bois, personnage de paravent qui se trouve sous un parapluie de papier peinturluré. Ou bien, nous passons devant une entrée de pagode et alors, quelques vieux monstres de granit assis de derrière dans l'eau me fait la grimace féroce. Mais comme c'est grand, ce Nagasaki! Voilà près d'une heure que nous courons à toutes jambes et cela ne me paraît pas finir. Et c'est en plaine. On ne soupçonnait pas cela de la rade qu'il y eût une plaine si étendue dans ce fond de vallée. Par exemple, il me serait impossible de dire où je suis, dans quelle direction nous avons couru. Je m'abandonne à mon djinn et au hasard. Et quel homme vapeur, mon djinn! J'étais habitué aux coureurs chinois, mais ce n'était rien de pareil. Quand j'écarte mes toiles cirées pour regarder quelque chose, c'est toujours lui, cela va sans dire, que j'aperçois au premier plan. Ses deux jambes nues, fauves, musclées, détalant l'une devant l'autre, éclaboussant tout, et son dos de hérisson courbé sous la pluie. Les gens qui voient passer ce petit char si arrosé, se doutent-ils qu'il renferme un prétendant en quête d'une épouse? Enfin, mon équipage s'arrête et mon djinn, souriant, avec des précautions pour ne pas me faire couler de nouvelles rivières dans le cou, abaisse la capote de ma voiture. Il y a une accalmie dans le déluge, il ne pleut plus. Je n'avais pas encore vu son visage. Il est assez joli, par exception. C'est un jeune homme d'une trentaine d'années, à l'air vif et vigoureux, au regard ouvert. Et qui me dit que peu de jours plus tard, ce même djinn... Mais non, je ne veux pas ébruiter cela encore. Ce serait risqué de jeter sur Chrysanthème une déconsidération anticipée et injuste. Donc, nous venons de nous arrêter. C'est à la base même d'une grande montagne surplombante. Nous avons dû dépasser la ville probablement, et nous sommes dans la banlieue, à la campagne. Il faut mettre pied à terre, paraît-il, et grimper à présent par un sentier étroit, presque à pic. Autour de nous, il y a des maisonnettes de faubourg, des clôtures de jardins, des palissades en bambou très élevées masquant la vue. La verte montagne nous écrase de toute sa hauteur, et des nuées basses, lourdes, obscures, se tiennent au-dessus de nos têtes comme un couvercle oppressant qui achèverait de nous enfermer dans ce recoin inconnu où nous sommes. Vraiment, il semble que cette absence de lointain, de perspective, dispose mieux à remarquer tous les détails de ce très petit bout de Japon intime, boueux et mouillé, que nous avons sous les yeux. La terre de ce pays est bien rouge. Les herbes, les fleurettes qui bordent le chemin me sont étrangères. Pourtant, dans la palissade, il y a des liserons comme les nôtres, et je reconnais dans les jardins des marguerites reines des ignats et d'autres fleurs de France. L'air a une odeur compliquée. Aux senteurs des plantes et de la terre, s'ajoute autre chose qui vient des demeures humaines sans doute. On dirait un mélange de poissons secs et d'encens. Personne ne passe. Des habitants, des intérieurs de la vie, rien ne se montre. Je pourrais aussi bien me croire n'importe où. Mon djinn a remisé sous un arbre sa petite voiture et nous montons ensemble dans ce chemin raide sur ce sol rouge où nos pieds glissent. « Nous allons bien au jardin des fleurs, » dis-je inquiet de savoir si j'ai été compris. « Oui, oui, » fait le djinn, « c'est là-haut, et c'est tout près. » Le chemin tourne, devient encaissé et sombre. D'un côté, la paroi de la montagne toute tapissée de fougères mouillées, de l'autre, une grande maison de bois, presque sans ouverture et d'un mauvais aspect. C'est là que mon djinn s'arrête. Comment cette maison sinistre, le jardin des fleurs? Il prétend que oui, l'air très sûr de son fait. Nous frappons à une grosse porte qui aussitôt glisse dans ses rainures et s'ouvre. Alors deux petites bonnes femmes apparaissent, drôlettes, presque vieillottes, mais ayant conservé des prétentions, cela se voit tout de suite. Tenues de potiches très correctes, mains et pieds d'enfant. À peine m'ont-elles vue qu'elle tombe à quatre pattes, le nez contre le plancher. « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui leur arrive ?»« Rien du tout. C'est simplement le salut de grande cérémonie qui se fait ainsi. Je n'en avais point l'habitude encore. Les voilà relevés, s'empressant à me déchausser. On n'entre jamais avec ses souliers dans une maison nippone. À essuyer le bas de mon pantalon, à toucher si mes épaules ne sont pas trempées. » Ce qui me frappe dès l'abord dans ces intérieurs japonais, c'est la propreté minutieuse et la nudité blanche glaciale. Sur des nattes irréprochables, sans un pli, sans un dessin, sans une souillure, on me fait monter au premier étage, dans une grande pièce, où il n'y a rien, absolument rien. Les murs en papier sont composés de châssis à coulisses, pouvant rentrer les uns dans les autres, au besoin disparaître, et tout un côté de l'appartement s'ouvre en véranda sur la campagne verte, sur le ciel gris. Comme siège, on m'apporte un carreau de velours noir, et me voilà assis très bas au milieu de cette pièce vide, où il fait presque froid. Les deux petites bonnes femmes, qui sont les servantes de la maison et les miennes très humbles, attendent de mes ordres dans les postures de soumission profonde. C'est incroyable que cela signifie quelque chose, ces mots baroques, ces phrases que j'ai apprises là-bas pendant notre exil au Pescador, à coups de lexique et de grammaire, mais sans conviction aucune. Il paraît bien que si, pourtant, on comprend tout de suite. Je veux d'abord parler à ce monsieur Kangourou, qui est interprète, blanchisseur et agent discret pour grand mariage. C'est parfait, on le connaît, on va sur l'heure me l'aller quérir, et l'aîné des servantes prépare dans ce but ses socs de bois, son parapluie de papier. Ensuite, je veux qu'on m'apporte une collation bien servie, composée de choses japonaises raffinées. De mieux en mieux, on se précipite aux cuisines pour commander cela. Enfin, je veux qu'on serve du thé et du riz à mon djinn qui m'attend en bas. Je veux beaucoup de choses, mesdames les poupées. Je vous les dirai à mesure, posément, quand j'aurai eu le temps de rassembler mes mots. Mais plus je vous regarde, plus je m'inquiète de ce que va être ma fiancée de demain. Presque mignonne, je vous l'accorde, vous l'êtes, à force de drôlerie, de mains délicates, de pieds en miniature. Mais elle est, dans somme, et puis ridiculement petite. Un air bibelot d'étagère, un air ouistiti, un air je ne sais quoi. Je commence à comprendre que je suis arrivé dans cette maison à un moment mal choisi. Il s'y passe quelque chose qui ne me regarde pas, et je gêne. Dès l'abord, j'aurais pu deviner cela malgré la politesse excessive de l'accueil. Car je me rappelle à présent, pendant qu'on me déchaussait en bas, j'ai entendu des chuchotements au-dessus de ma tête, puis un bruit de panneaux que l'on faisait courir très vite dans leur glissière. Évidemment, c'était pour me cacher ce que je ne devais pas voir. On improvisait pour moi l'appartement où je suis, comme dans les ménageries, on fait un compartiment séparé à certaines bêtes pendant la représentation. Maintenant, on m'a laissé seul, tandis que mes ordres s'exécutent, et je tends l'oreille, accroupi comme un Bouddha sur mon coussin de velours noir, au milieu de la blancheur de ses nattes et de ses murs. Derrière les cloisons de papier, des voix fatiguées qui semblent nombreuses parlent tout bas. Puis un son de guitare et un chant de femme s'élèvent, plaintif, assez doux, dans la sonorité de cette maison nue, dans la mélancolie de ce temps de pluie. Par la véranda toute grande ouverte, ce que l'on voit est bien joli, je le reconnais. Cela ressemble à un paysage enchanté. Des montagnes admirablement boisées montent en haut dans le ciel toujours sombre, y cachant les pointes de leurs cimes, et perchées dans les nuages, un temple. L'air a cette transparence absolue, les lointains cette netteté qui suivent les grandes averses. Mais une voûte épaisse, encore chargée d'eau, reste tendue au-dessus de tout, et sur les feuillages des bois suspendus, il y a comme de gros flocons de ouate grise qui se tiennent immobiles. Au premier plan, en avant et en bas de toutes ces choses presque fantastiques, est un jardin en miniature où deux beaux chats blancs se promènent, s'amusent à se poursuivre dans les allées d'un labyrinthe lilliputien en secouant leurs pattes parce que le sable est plein d'eau. Le jardin est maniéré au possible. Aucune fleur, mais des petits rochers, des petits lacs, des arbres nains taillés avec un goût bizarre. Tout cela, pas naturel, mais si ingénieusement composé, si vert, avec des mousses si fraîches. Un grand silence au dehors, dans ces campagnes mouillées que je domine. Un calme absolu, jusque là-bas, dans les fonds du décor immense. Mais la voix de femme derrière le mur de papier chante toujours avec une extrême douceur triste. La guitare qui l'accompagne a des notes graves, un peu lugubres. Tiens, cela s'accélère à présent, et on dirait même que l'on danse. Tant pis, je vais essayer de regarder entre les châssis légers par une fente que j'aperçois là-bas. Oh, le spectacle singulier! Évidemment, de jeunes élégants de Nagasaki, en train de faire la grande fête clandestine. Dans un appartement aussi nu que le mien, ils sont là une douzaine, assis en rond, par terre, longues robes en coton bleu, à manches pagodes, longs cheveux gras et plats, surmonté d'un chapeau européen de forme melon, figure niaise, jaune, épuisée, exsangue. À terre, une quantité de petits réchauds, de petites pipes, de petits plateaux de lac, de petites théières, de petites tasses, tous les accessoires et tous les restes d'une orgie japonaise ressemblant à une dînette d'enfant. Et au milieu du cercle de ces dandys, trois femmes très parées, autant dire trois visions étranges. Robes de couleur pâle et sans nom, brodées de chimères d'or, grands chignons arrangés avec un art inconnu, piqués d'épingles et de fleurs. Deux sont assises et me tournent le dos, l'une tenant la guitare, l'autre celle qui chante de cette voix si douce. Elles sont exquises de pose, de costume, de cheveux, de nuque, de tout, ainsi vues furtivement par derrière, et je tremble qu'un mouvement ne me montre leur visage qui sans doute me désenchantera. La troisième est debout et danse devant cet aréopage d'imbéciles, devant ses chapeaux melons et ses cheveux plats. Oh, quelle épouvante quand elle se retourne! Elle porte sur la figure le masque horrible, contracté, blême, d'un spectre ou d'un vampire. Le masque se détache et tombe. Elle est un amour de petite fée, pouvant bien avoir 12 ou 15 ans, svelte, déjà coquette, déjà femme, vêtue d'une longue robe de crépon bleu nuit, ombrée avec une broderie représentant des chauves-souris grises, des chauves-souris noires et des chauves-souris d'or. Des pas dans l'escalier, des pieds de femme légers, déchaussés, froissant les nattes blanches. Sans doute le premier service de mon linge que l'on m'apporte. Vite je retombe immobile, fixe sur mon coussin de velours noir. Elles sont trois maintenant, trois servantes qui arrivent à la file avec des sourires et des révérences. L'une me présente le réchaud et la théière, l'autre des fruits confits dans de délicieuses petites assiettes, l'autre encore des choses indéfinissables sur des bijoux de petits plateaux. Et elles s'accroupissent devant moi, par terre, déposant à mes pieds toute cette dînette. À ce moment, j'ai une impression de Japon assez charmante. Je me sens entrer en plein dans ce petit monde imaginé, artificiel, que je connaissais déjà par les peintures des lacs et les porcelaines. C'est si bien cela. Ces trois petites femmes assises, gracieuses, mignardes, avec leurs yeux bridés, leurs beaux chignons en coque large, lisses et comme vernis, et ce petit service par terre, et ce paysage entrevu par la véranda, cette pagode perchée dans les nuages, et cette préciosité qui est partout, même dans les choses. C'est si bien cela aussi, cette voix mélancolique de femme qui continue de se faire entendre derrière la cloison de papier. C'est ainsi évidemment qu'elle devait chanter, ces musiciennes que j'avais vues jadis peintes en couleurs bizarres sur papier de riz et fermant à demi leurs petits yeux vagues au milieu de fleurs trop grandes. Je l'avais deviné, ce Japon-là, bien longtemps avant d'y venir. Peut-être pourtant, dans la réalité, me semble-t-il diminué, plus mièvre encore, et plus triste aussi, sans doute à cause de ce suaire de nuages noirs, à cause de cette pluie. En attendant, monsieur Kangourou, qui va arriver, paraît-il, qui s'habille. Faisons la dînette. Dans un bol des plus mignons, ordé de cigognes envolées, il y a un potage invraisemblable aux algues. Ailleurs, des petits poissons secs au sucre, des crabes au sucre, des haricots au sucre, des fruits au vinaigre et au poivre. Tout cela atroce, mais surtout imprévu, inimaginable. Elles me font manger, les petites femmes, riant beaucoup de ce rire perpétuel agaçant qui est le rire japonais. Manger à leur manière avec de gentilles baguettes et un doigté plein de grâce. Je m'habitue à leur figure. L'ensemble de tout cela est raffiné, d'un raffinement très à côté d'une autre, par exemple, que je ne puis guère bien comprendre à première vue, mais qui, à la longue, finira peut-être par me plaire. Entre tout à coup, comme un papillon de nuit réveillé par le plein jour, comme une phalène rare et surprenante, la danseuse d'à côté, l'enfant qui portait le masque sinistre. C'est pour me voir, sans doute. Elle roule des yeux de chatte craintive, puis, apprivoisée tout de suite, vient s'appuyer contre moi avec une câlinerie de bébé qui sonne adorablement faux. Elle est mignonne, fine, élégante, elle sent bon. Drôlement peinte, blanche comme du plâtre, avec un petit rond rose bien régulier au milieu de chaque joue, la bouche carminée, un peu de dorure soulignant la lèvre inférieure. Comme on n'a pas pu blanchir la nuque à cause des cheveux follets qui sont nombreux, on a, par amour de la correctitude, arrêté là le plâtrage blanc en une ligne droite que l'on dirait coupée au couteau. Il en résulte, derrière son cou, un carré de peau naturelle qui est très jaune. Un son impérieux de guitare derrière la cloison, un appel évidemment. Cac, elle se sauve, la petite fée, s'en va retrouver les imbéciles d'à côté. Mais si j'épousais celle-ci, sans chercher plus loin, je la respecterais comme un enfant à moi confié. Je la prendrais pour ce qu'elle est, pour un jouet bizarre et charmant. Quel amusant petit ménage cela me ferait. Vraiment, en tant qu'à épouser un bibelot, j'aurais peine à trouver mieux. Entrée de monsieur Kangourou. Ah, complet en drap gris, de la belle jardinière ou du Pont-Neuf. Chapeau melon, gants de filoselle blanc. Figure à la fois rusée et niaise. Presque pas de nez, presque pas d'yeux. révérence à la japonaise, plongeons brusque, les mains posées à plat sur les genoux, le torse faisant angle droit avec les jambes comme si le bonhomme se cassait. Petit sifflement de reptile que l'on produit en aspirant la salive entre les dents et qui est le dernier mot de la politesse obséquieuse dans cet empire. Vous parlez français, monsieur kangourou? Vive mes yeux! Nouvelle révérence. Il m'en fait pour chaque mot que je dis comme s'il était un pantin à manivelle. Quand il est assis devant moi par terre, cela se borne à un plongeon de la tête, accompagné toujours du même bruit sifflant de salive. Une tasse de thé, monsieur kangourou? Nouveau salut et geste très précieux des mains comme pour dire « Oh, je serai à peine, c'est trop de condescendance de votre part, enfin, pour vous obéir. » Il a deviné au premier mot ce que j'attends de lui. « Sans doute, répond-il, nous allons nous occuper de cela, mais une huitaine de jours précisément, une famille de Shimonosaki, où il y a deux filles charmantes, doit arriver. » Comment, dans une huitaine de jours? Ah, vous me connaissez mal, hein, monsieur kangourou. Non, 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 ce sera tout de suite, demain, ou pas du tout. Encore une révérence sifflante, et kangourou-san, gagné par mon agitation, se met à passer en revue fiévreusement toutes les jeunes personnes disponibles à Nagasaki. Voyons, il y avait bien mademoiselle Le Yeh. Oh, quel dommage que je n'ai pas parlé deux jours plus tôt. Si jolie, si habile à jouer de la guitare, c'est un irréparable malheur, elle a été prise avant-hier par un officier russe. Ah, mademoiselle Abricot. Cela ferait-il mon affaire, cette demoiselle Abricot? C'est la fille d'un riche marchand de porcelaine du bazar de Décima. Une personne d'un grand mérite, mais elle coûterait fort cher. Ses parents, qui en font beaucoup de cas, ne la céderaient pas à moins de 100 yens par mois. Elle est très instruite, sait couramment l'écriture commerciale, et possède au bout des doigts plus de 2000 caractères d'écriture savante. Dans un concours de poésie, elle est arrivée première avec un morceau composé à la louange des petites fleurs blanches des vues à travers le courrier du matin. Seulement, elle n'est pas très jolie de visage. Un de ses yeux est moins grand que l'autre, et un trou lui est resté dans une joue d'un mal qu'elle avait eu étant enfant. Un yen vaut 5 francs. Oh non, alors de grâce, pas elle. Cherchons parmi les jeunes personnes, moins distinguées, mais n'ayant pas de cicatrices. Et celles qui sont là à côté, en belle robe brodée d'or. Par exemple, la danseuse au masque de spectre, monsieur kangourou, ou encore celle qui chante d'une voix si douce et dont la nuque est si jolie. Il ne comprend pas bien d'abord de qui il s'agit, puis quand il a compris, secouant la tête, presque moqueur, il dit
« Non, monsieur, non, ce sont des geishas, monsieur, des geishas. »
Geisha, chanteuse et danseuse de profession, formée au conservatoire de Yendo. Eh bien, mais pourquoi donc pas des geishas? Qu'est-ce que cela peut me faire à moi qu'elles soient des geishas? Plus tard, quand je serai mieux au courant des choses japonaises, peut-être apprécierai-je moi-même l'énormité de ma demande. On dirait vraiment que j'ai parlé d'épouser le diable. Mais voici M. Kangourou qui se rappelle tout à coup une certaine mademoiselle Jasmin. Mon Dieu, comment donc n'y avait-il pas songé tout de suite? Mais c'est absolument ce qu'il me faut. Il va dès demain, dès ce soir, faire des ouvertures aux parents de cette jeune personne qui demeure fort loin d'ici, sur la colline d'en face, dans le faubourg de Dujenji. C'est une demoiselle très jolie d'une 15aine d'années. On aurait probablement à 18 ou 20 piastres par mois, à la condition de lui offrir quelques robes de bon goût et de la loger dans une maison agréable et bien située, ce qu'un galant homme comme moi ne peut pas manquer de faire. Bon, va pour mademoiselle Jasmin.
et séparons-nous leur presse. Monsieur Kangourou viendra demain à mon bord me communiquer le résultat de ses premières démarches et se concerter avec moi pour l'entrevue. De rétribution, il n'en acceptera aucune pour le moment, mais je lui donnerai mon linge à blanchir et je lui procurerai la clientèle de mes camarades de la Triomphante. C'est entendu. Salut profond, on me rechausse à la porte. Mon Jin, profitant de cet interprète que la chance lui a mis sous la main, se recommande à moi pour l'avenir. Sa station est justement sur le quai. Son numéro est 415, écrit en chiffres français, sur la lanterne de sa voiture. À bord, nous avons 415, le goélec, fusillé, servant de gauche à l'une de mes pièces. C'est bon, je retiendrai cela. Sont arrivés 12 sous la course et 10 sous l'heure pour les habitués. À merveille, il aura ma pratique, c'est promis. Allons-nous-en. Les servantes qui m'ont reconduit tombent à quatre pattes pour le salut final et restent prosternées sur le seuil, tant que je suis en vue dans le sentier sombre où les fougères achèvent de s'égoutter sur ma tête.